these shipments and, in fact, in the methods of these shipments. We've still got about 15 minutes, yeah?
Okay. Thank you. As Damon said, my name is Bas Browne. I work for the Dutch organization of Greenpeace, and I would like to prefer to talk in English because, first of all, I prepare this in English, and English is one of the languages that I'm getting most used to these days. The dangers of maritime transport. Well, obviously, we are now going to talk about maritime transport, but I would like to point out that the shipment made from India entered the United Kingdom in Felixstowe and was transported up to Dounreay over inland roads in Scotland, which are very small roads. The people living here in the countryside in France know how a very small road looks like, and transporting highly enriched uranium, spent nuclear fuel, over those kinds of roads in this time of age seems to me ludicrous. Dangers of maritime transport. The safety of maritime transportation is based on the EIA safety regulations, that is, safety regulations by the International Atomic Energy Agency.
The protection systems in place against theft. Given all of those considerations, I still believe, and my work over the past 15 to 20 years has been dedicated to the principle that if a plutonium economy is allowed to come into being, that the world will become a hideously dangerous place over time. I'd like to emphasize also that plutonium is not the only material of concern. There is a second basic weapons material, that being highly enriched uranium, and it came to the world's attention in very unambiguous terms just recently, because of the French exported research reactor, actually two of them, one bombed by the Israelis in 1981, the other just recently bombed by US and coalition forces planes in Iraq, and there being still in Iraq enough highly enriched uranium for at least one, possibly a few weapons, and the whereabouts of that material is not known today. But let me focus first on the plutonium question and raise the issue of proliferation, both latent and blatant. And I think to fully grasp the proliferation problem, you have to look at it not only in terms of the developing world, but also the advanced industrial world. Because whatever happens in the developing world invariably happens because the technology, the industry, and such is pioneered in the industrialized world. And therefore, the French plutonium program and the British have special significance, not just in terms of the domestic applications of this material, but also the extent to which this sets a pattern, it sets a fashion that is picked up first in major non-nuclear weapon states in the industrialized world, Germany and Japan, to be specific, and beyond that, it does spread to the developing world. And I would cite India as an example of a nation that has a very advanced nuclear program and a very advanced plutonium program, perhaps not as elaborate and as well run as those in France and the UK, but a very respectable program and a very ambitious one that has profound weapons implications. I think one has to bear in mind a very basic statistic, and that is that the nuclear weapon states today have in their arsenals approximately 200 tons of plutonium, most of it held, of course, by the United States and the Soviet Union. The potential inventory of plutonium from the world's power reactors by the year 2000. Pardon? 200 tons, 200 metric tons, of plutonium in the weapons of the world today. The inventory of plutonium that will have been produced by the world's power reactors by the turn of the century comes to approximately 2,000 tons. So you can see that if this material would eventually be recovered for recycling purposes, this will bring into commerce 10 times the amount of plutonium. 10 times? The amount of plutonium currently in weapons. And of course, nuclear power plants will continue to operate and the inventory will continue to grow. So the most fundamental question, I think, and one that really has to be tackled, is the proliferation question. One can make economic arguments both ways, but I think even if the economics should work out, the proliferation risks are so overwhelming that plutonium really doesn't make sense in any sense. Now, the national diversion threat is only part of the problem. There is also the potential loss of this material to parties unknown as the result of diversions that might take place within a plant. And I think here it's important to understand what the international agency does and what the national operators of these plants do and how their missions are related and how the weaknesses apply to both regimes. An awful lot is expected of the International Atomic Energy Agency, but it is really quite limited in terms of its authority and its technical means. It is an international agency. It is run by a board of governors where invariably the lowest common denominator principle applies. The agency can only be as strong as its constituent parts will permit it. And there are a number of restraints applicable to the agency. The most fundamental restraint is the budget restraint. It's operating on a zero growth budget right now. It has approximately its budget, I'll put it in another way, its budget for applying safeguards is equivalent to the police force of a medium-sized city in the United States. It is not a lot of money by any means. Its political authority is limited by the nature of the safeguards arrangements that it works out with the cooperating countries, and its technical means are limited as well. But perhaps the best way to understand what the agency is up against is to look at how it performs in relation to its own detection goals. These are goals that are laid out by a team of experts that serve as consultants to the International Atomic Energy Agency, and the agency has to live up to these standards as best as it can. The fundamental detection goal of the agency is to be able to detect the loss of one weapons quantity of plutonium a year from a plant. The plant, the size of the French reprocessing plants and the British plant and the Japanese plant to be built, these are such large facilities, and the uncertainties of measuring plutonium in bulk are so great. Bear in mind that this is a material that is handled in liquid and powdered form in the reprocessing and the fabrication plants. So this is material in bulk. And the uncertainty factor alone in measuring this material is so large that the best the agency can do by its own admission is to detect the loss of about 250 to 300 kilograms of plutonium a year. And anything less than that is uncertain. That is how large the uncertainty factor is. So there could be, in other words, losses of hundreds of kilograms a year that may not be detected by the agency. Now, if it were just the agency and you trusted the nations involved, then maybe it wouldn't be such a big problem. If you felt that the national operator had sufficient control over these plants so that if there was no suspicion that the national operator had weapons intentions, there'd be nothing to worry about. But here's the clincher, so to speak. The agency simply overlays the safeguards and controls that are applied by the national operator. So this means that a knowledgeable insider who would know how to defeat the material accounting and control system might well be able to remove several weapons quantities of material without the national operator of the plant being knowledgeable of this. So this raises the possibility of criminal or terrorist elements being able to subvert a workforce or individuals on the workforce by means of bribery or coercion, or perhaps by reason of ideology, and this material is potentially vulnerable to removal from a plant. There are what are known as unpoliced diversion pathways within a plant. That is, pathways usually along the low-level waste stream of a plant where they are not policed for the removal of plutonium, because plutonium in significant quantities is not supposed to be in that particular waste stream of the plant in the first place. So neither the operator or the international inspector looks for plutonium where it's not supposed to be. And that represents a potential diversion pathway that is not policed against theft. So I wanted to make the point that plutonium is a very special material, and it's one that ought to be looked at in terms of its long-term security implications. The loss of one or two weapons quantities of this material to the wrong parties could indeed change the course of history. And when you have an industry that's going to be producing this material in the hundreds and eventually thousands of tons, if all plans go forward, if economics are not the final arbiter of the decision-making as to whether to go ahead or not. And frankly, economics has not been a decisive factor to date. There is an entrenched nuclear technocracy that is committed to closing the fuel cycle and to recovering plutonium. And I'm afraid it's going to take an educated public and it's going to take an aroused political constituency to put a stop to this. And until just recently, the nuclear industry in most countries has operated pretty much as it has seen fit. The political process is usually in league with the industry because of the nature of the investment, the size of the investment, the prestige that goes with the development of these materials and this technology. And I think if the industry is left to its own devices, we may well see a plutonium economy, even if plutonium is not economical. Of course, I think it's important. And like plutonium, it is a material that makes no sense any longer for the original purpose for which it was intended. Highly enriched uranium is, which is bomb material, it's the material of the Hiroshima bomb. This material was originally produced in civilian programs for use in research reactors, such as the research reactors, the two reactors that France exported to Iraq. And since the administration of President Carter, the United States has had a program, being the country that has exported most of this fuel to other countries, has had a program to develop lower enriched fuels that could be substituted for the highly enriched fuel that is used in most of the research reactors. And over the past 10 years or so, fuels have been developed that would permit the replacement of most of the highly enriched uranium now used in research reactors in the world. Just recently, the Bush administration zeroed out the funds that were being applied to the development of the highly enriched fuels. And the reason for that is that the U.S. Department of Energy is concerned that it too may be required to convert its research reactors to non-weapons usable fuel if the fuel development program continues. And there are also some large research reactor operators in Europe that are also reluctant to convert. So the fuels have been developed now for most of the small research reactors, but the funds have been cut off for the development of the remaining fuels for a few large research reactors. And the whole program now is in some degree of jeopardy, because there is a feeling among research reactor operators that unless everyone agrees to convert, no one should convert. And the actual conversion process has been proceeding very slowly. But it is extremely important from a non-proliferation policy standpoint to try to delegitimate and to eliminate the introduction and the use of bomb-grade material, whether it's plutonium or highly enriched uranium, in civil programs. And of course, one has to realize at the same time that nations that are now non-weapon states will continue to resent being lectured to by the nuclear weapon states on the virtues of non-proliferation when the nuclear weapon states continue to produce ever larger quantities of weapons materials and also continue to modernize their arsenals even as they reduce in size. So an essential part of an effective non-proliferation policy is for the nuclear weapon states to practice what they preach. Otherwise, it becomes very hard, I think, to answer the arguments that are put forward by nuclear officials from Japan and West Germany, for example. And these issues are invariably raised in polite conversation as to why it is you want to deprive us of the option when you continue to exercise the option yourself. I'd like to close by noting one other development that I think is quite important and pertains to the question of the future of the French and the British plutonium program. And it will lead naturally to what Damon Mogren is going to talk about, which are the security concerns on the transport of plutonium.
Je voudrais parler en particulier de la sécurité dans le cadre du transport du plutonium. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants dans un
US-Japan nuclear cooperation agreement.
Il y a un accord de coopération entre les États-Unis et le Japon en la matière. C'est un accord
Japan,
qui a été négocié sur insistance du Japon. C'est un accord qui vient en remplacement d'un accord de coopération qui devait venir à expiration en l'an 2004. Alors le Japon,
recovering and using plutonium
voulait recouvrir sa liberté pour l'utilisation du plutonium issu de la filière à eau légère.
Old agreement, the U.S. had a case-by-case approval right. Every time Japan wanted to transfer spent fuel for reprocessing and wanted to transport separated plutonium back from its European and British processors, or wanted to fabricate plutonium into fuel and use the plutonium as fuel, it would need a separate consent from the United States. And this, the Japanese deeply resented and found to interfere with their long-term planning. The United States reluctantly gave in and provided Japan a 30-year advance approval. To recover and use as much plutonium as it wanted from U.S.-supplied fuel. The potential inventory of plutonium covered by this agreement over the next 30 years, depending on how the Japanese program goes, could be as much as 400 tons of plutonium. In other words, twice the amount that the U.S. and the Soviet Union now have in all of their weapons. There is one catch, however, and it's an important one. And that is that
alors,
the United States retains a veto over the security arrangements that will attend that material,
particularly the separated plutonium that is to be transported back to Japan.
The initial plan was to send it back by air,
but
our organization uncovered the fact that testing done in secret by the United States and Japan to develop a crash-proof test
that the cast had failed,
but that the plan was to go forward anyway with the best cast that could be come up with. When we disclosed this fact, a senator from the state of Alaska, Senator Mikowski,
because his state was to be
either the refueling point or at least the emergency landing point ont lancé un cri d'alarme. Back from Europe, he got a law passed which said that before any such air shipments could take place, task would have to survive an actual worst case crash
a demandé
test.
Qu'avant que ce and système soit utilisé, il fallait qu'il soit soumis aux essais les plus sévères possibles, et cela s'est avéré impossible donc de procéder
to
à l'essai dans les conditions les pires, de sorte que le transport reste toujours un transport maritime escorté,
hold
un
about
transport
a ton of,
à petite vitesse
each time the shipment went forward perhaps four or five times a year. The U.S. has to approve the final security plan.
Alors, ce sont les États-Unis qui doivent donner leur accord aux dispositions finales. Il doit d'ailleurs y avoir toute une série de clauses de sécurité.
There would be some means, effective means to respond.
Et donc, pour chaque cas d'avarie, il y a une réponse donnée, il y a une réaction prévue. Et je dois dire d'ailleurs que les plus grandes craintes ont été mises en ce qui concerne la faisabilité, la praticabilité de ces clauses de sécurité qui ont été envisagées, en particulier en ce qui concerne l'escorte de ces livres. C'est en 1992 qu'interviendra ce premier rapatriement vers le Japon. Ce sont les États-Unis qui devront donc donner leur accord en ce qui concerne les mesures de sécurité. Beaucoup sont préoccupés au Congrès, au Sénat, toute une série de voix s'insurgent contre tout cela. Alors, nous verrons, en tout cas, si ce transport intervient, eh bien, ce sera le début.
Donc, and that would throw a very large monkey wrench into the
il s'agit en fait au total de 45 tonnes de combustible japonais.
So I wanted to draw attention to this particular U.S.-Japan agreement and
je voulais attirer votre attention sur cet accord qui a été passé entre les États-Unis et le Japon sur les questions de sécurité afférentes à cet accord. Cette question du rapatriement du plutonium vers le Japon est une question particulièrement grave. Et cela va d'ailleurs renchérir les difficultés économiques déjà rencontrées par la filière plutonium française et britannique. Donc je tenais à vous le signaler. Je pense que je puis en rester là pour l'instant et plutôt répondre à vos questions.
Je vous propose une courte interruption de 10 minutes. Pour
les planificateurs énergétiques mondiaux prévoient encore, enfin certains d'entre eux, prévoient encore une bonne part d'énergie provenant de surgénérateurs dans le monde dans les années 2000 et plus. J'aimerais savoir faire le point avec vous sur où on en est aujourd'hui cette filière surgénératrice qu'on connaît peut-être un petit peu en France, mais ce qui se passe au Japon et surtout dans la recherche en Europe, au Japon et aux États-Unis. Faire le point un petit peu donc des surgénérateurs.
Merci, Monsieur Leventhal.
The fast breeder program.
Cette filière surgénérateur est remise en cause, ce qui est une bonne chose, me semble-t-il, pour l'ensemble du monde. Ce qui ne veut pas dire que l'avenir du nucléaire soit condamné. On procède à un réexamen du nucléaire, en particulier en raison de l'effet de serre, etc. En ce qui concerne le surgénérateur, la filière surgénération en France, les difficultés sont multiples. Or, la France est le leader et le pionnier en matière de développement et de réalisation de cette filière. Le Superphénix ne fonctionne pas. Il est plus souvent arrêté qu'il ne fonctionne depuis les quelques années de sa mise en service. Quant au réacteur Phénix, qui a été le surgénérateur, générateur pilote, lui aussi, il a été soumis à de nombreux arrêts pour des raisons de sécurité. La filière surgénérateur en RFA a été abandonnée. On a abandonné le projet de Calcar. Il a été interrompu bien qu'il ait été presque prêt. Les électriciens se sont rendus compte à RFA que ce n'avait aucun sens du point de vue économique. En ce qui concerne la filière britannique, maintenant, il n'y a pas d'évolution, les choses n'avancent pas. Passons au Japon maintenant. Bon, il semblait que le Japon soit le dernier bastion en matière de réalisation de la filière sur générateur. Eh bien, la programmation japonaise a envisagé de sursoir de 20 ans en ce qui concerne l'utilisation commerciale de ce type de réacteurs et surgénérateurs. Bon, il y a quelques petits surgénérateurs expérimentaux dont l'activité va commencer l'année prochaine. Il s'agit du générateur Monju, c'est un projet privé. Alors, qu'il s'agisse du projet Calcar ou du projet Monju, ce sont des projets pratiquement identiques du point de vue dimension. C'est intéressant. Et mon espoir, et ce que va faire mon organisation, c'est de pouvoir indiquer aux Japonais très clairement quels sont les problèmes qui ont été rencontrés dans le cadre de la conception du surgénérateur de Calcar et quels ont été les handicaps économiques. Et nous espérons donc pouvoir convaincre les Japonais à la lumière de l'expérience allemande. Bon, l'obstacle principal, l'entrave principale, en dehors des difficultés techniques, parce que ce sont des systèmes particulièrement complexes, donc indépendamment des difficultés techniques, l'entrave principale, c'est le problème de l'uranium, de l'approvisionnement en uranium. Il n'est plus nécessaire, donc, maintenant, d'utiliser le plutonium comme combustible. On a dit pendant un certain temps que l'on manquerait d'uranium. Ce n'est pas vrai. On s'aperçoit aujourd'hui que l'approvisionnement en uranium a des prix intéressants et garantis. Donc, plus n'est besoin d'avoir recours au plutonium. Et ce qui sape donc la raison d'être de ces surgénérateurs. Alors, j'espère, quant à moi, que cette filière sera abandonnée partout dans le monde. Bon, en tant que réacteur, c'est un réacteur qui est alimenté en plutonium. Donc, on retrouve le risque de prolifération. C'est un risque de premier ordre en matière de prolifération de nucléaire. Le plutonium produit par le surgéranium est vraiment parfait pour la production d'armes. C'est une matière de première qualité pour la production d'armement. Alors même si l'on nous dit que tout cela est à usage pacifique, le risque existe néanmoins dans la mesure où cette substance serait produite. Donc je pense que nous avons tous intérêt effectivement à ce que cette filière soit abandonnée de façon générale et partout.
Solange, et puis monsieur Solange, je t'en prie.
Yes, I have a question which is... Donc j'ai une question qui est un peu parallèle, si vous voulez, mais ayant eu des discussions dans le domaine du désarmement, nous avons interrogé les Soviétiques et les Américains pour savoir quel était leur plan pour le matériel fissile qui n'était plus utilisé dans les armes atomiques, dans le traité de réduction des missiles à moyenne portée. Et ni les uns, enfin en tout cas au niveau diplomatique, on n'a pas su nous dire quelle était la position officielle des États-Unis. Ils ont dit ça c'est un domaine des scientifiques. Alors comme j'ai des scientifiques ici, je voulais savoir quelle est la position officielle aux États-Unis actuellement de ce qu'est-ce qu'on va faire de ce matériel. Est-ce qu'on le considère comme un déchet nucléaire? Est-ce qu'on le considère comme un dépôt de plutonium pouvant servir à des fins ultérieures? Est-ce que quelle est l'avis ou à des armes ou à dans le domaine civil, ou quelle est la position affirmée officiellement par les autorités à l'heure actuelle?
Well, at this point,
je dois dire,
the official position of the United
la position officielle des États-Unis n'est pas de supprimer ce qui a été décidé, en fait, dans le cadre de l'accord avec l'Union soviétique, à savoir de supprimer les ogives. Et, en fait, la possibilité est donc pour ces ogives de les supprimer. On supprime non pas les ogives, mais certains autres systèmes de fourniture. Dans certains milieux techniques, des discussions ont lieu disant que l'on pourrait récupérer du matériel fissile à partir de ces ogives et qu'on pourrait le mettre en dépôt. Il y a deux questions qui se posent. Premièrement, comment démanteler des ogives sans donner des informations à l'autre partie? Il y a des experts dont certains constructeurs qui considèrent que l'on pourrait utiliser un arrangement style boîte noire. Ainsi, on pourrait effectivement avoir un certain contrôle et récupérer du matériel à partir de ces ogives. Ceci en ayant la garantie que l'ensemble du matériel fissile a été récupéré et qu'il n'y en ait pas qui reste et qui pourrait être réutilisé pour des armements. L'autre problème, que faites-vous du plutonium à partir du moment une utilisation dans des centrales comme combustible, d'autres réutilisées avec les déchets initiaux, des déchets qui seraient donc remélangés. Je pense qu'il est préférable qu'il n'y ait pas de précédent pour l'utilisation de ce combustible prévu pour des réacteurs civils. Mais il faut voir également quelles sont les conséquences de la bureaucratie. Il y a un certain nombre de réacteurs et, si vous voulez, on ne pourrait pas utiliser l'ensemble du matériel ainsi récupéré. L'essentiel, c'est de démanteler l'ensemble de cet armement, d'essayer de se débarrasser de ce matériel. Il y a l'Institut de contrôle qui essaye de suivre ce problème non seulement du matériel fissile, mais également du tritium, qui en fait est notamment utilisé dans le cadre des ogives modernes. Ce n'est qu'en supprimant toute nouvelle production de tritium que l'on arrivera à réduire ce fonctionnement de ces armements. Vous savez que le tritium, en fait, garde sa radioactivité pendant une période de 12 années. Jusqu'à présent, en fait, on en produisait plus tout simplement pour maintenir un arsenal à un niveau important. Mais si l'on réduit maintenant l'arsenal, on peut penser que l'on peut réduire le nombre des ogives et nous pensons que l'on peut utiliser notamment ce facteur et l'on pourrait réduire de moitié l'arsenal chaque moitié. Il y a encore une considération
c'était celle-ci au sujet du matériel fissile nucléaire.
Quatre questions avec celle de M. Moglen que j'ai déjà brimé une fois, je ne vais pas le brimer deux fois. Tout d'abord, Jo Boer, puis Juan Berendt, Dominique Voynet et M. Moglen. Oui, c'est à vous. Le plus bref possible, s'il vous plaît, parce que à 17h40, impérativement, nous passons à l'exposé suivant, sous peine d'être en panne de temps. Je vous en prie.
Ma question sera brève. Vous n'avez pas tellement parlé de l'Inde, car il y a un programme de surgénérateurs et de retraitement important. Deuxièmement, vous avez parlé de tritium. Mais il y a également une production de tritium important au Canada. Ils exportent vers les États-Unis. Et ceci, que se passe-t-il? Est-ce que votre institut a des relations avec l'Inde? Est-ce que vous pouvez leur montrer ce que sont vos informations et les transmettre au Parlement ainsi qu'au groupe antinucléaire? Et pour les garanties, à cause du coût budgétaire zéro, ne serait-il pas bon de prévoir une taxe pour toute production? Et je pense, même si l'on prévoit une somme tout à fait minime de quelques cents, ceci pourrait apporter une contribution importante.
I'll answer your last question first, which is freshest in mind.
Je répondrai d'abord à votre dernière question.
Metering power reactors to raise revenues for safeguards.
Pour essayer d'obtenir des revenus pour des garanties, c'est une question qui a été longuement discutée. Et vous comprendrez que les autorités et l'industrie nucléaire en réagit.
Although I think it's not a bad idea,
ce n'est pas une mauvaise idée, je crois,
si de l'argent the only problem in upgrading safeguards.
Devait être le seul problème pour les garanties.
The ultimate problem.
Non, ce n'est pas vraiment là le problème. Le vrai problème, ce sont les limites physiques, les limites techniques de toute garantie possible. Et une de mes préoccupations, c'est que si vous avez beaucoup d'argent, vous croyez que peut-être vous avez des garanties qui sont bonnes, notamment pour ce qui est du plutonium, ce qui en réalité est impossible. Voilà pourquoi je pense qu'il est préférable de donner une mission qui est possible et d'utiliser les moyens donnés. Il ne faut pas du tout donner une tâche qui ne soit pas possible de gérer. Car en fait, nous devons considérer que le plutonium existe tant sous forme liquide que sous forme poudreuse. Pour l'Inde, et votre question, en fait, dans mon exposé, je n'ai pas du tout cité l'Inde au titre d'exemple pour les pays en voie de développement avec de grands programmes plutonium ambitieux. Mais la question est de savoir comment arrivons-nous à faire que l'Inde collabore avec nous. C'est là le problème qui se pose. Lorsqu'il s'agit de production d'armes, il s'agit là également de voir les zones de conflits régionaux, les tensions sur le plan régional et les raisons qui conduisent un pays à développer une bombe. Il y a quand même une spirale qui s'est constituée dans cette région entre la Chine qui réagit par rapport à l'Union soviétique qui réagit par rapport aux États-Unis. Si vous voulez, c'est une spirale qui se poursuit, notamment avec le Pakistan, qui récemment, en fait, ont acquis la technologie nécessaire. Donc, il faut d'abord résoudre les problèmes régionaux. Il y a une année, notre institut à Montevideo a tenu une conférence au cours de laquelle nous avons réuni les experts et d'Amérique latine. Nous avions eu d'excellentes idées. En fait, on a essayé de voir comment l'on pouvait apporter plus de transparence aux problèmes nucléaires, arriver à un meilleur contrôle pour essayer d'éviter cette course contre la montre, cette compétition, si vous voulez. Certaines idées ont été reprises dans une une déclaration des présidents de ces pays en Asie du Sud-Est, nous voyons que le défi relevé n'existe pas tellement du fait qu'on souhaite développer cette spirale. Non, on souhaite bien au contraire l'arrêter. Il faut pour cela en fait procéder région par région. Une solution pour l'Asie du Sud-Est ne correspond pas à une solution pour le Moyen-Orient. Il faut également songer aux nouveaux pays, tels la Corée du Nord. Là, il y a également une certaine nervosité. Et puis, voyons également ceci par rapport à Taïwan, à la Corée du Sud, et ceci aussi, non seulement à cause de la Corée du Nord, mais également à cause de la Chine. Le Japon dit qu'ils n'ont pas l'intention de produire de l'arme nucléaire, bien que cela est peut-être dans leur intention. Le plutonium, en fait, ferait réfléchir les voisins, la Corée, Taïwan, utilisant plutonium civil. Et donc, les intentions les plus pacifistes peuvent conduire à de mauvais résultats. J'espère avoir ainsi répondu.
Et je vous demanderai, Monsieur Leventhal, de répondre aux trois questions en même temps et brièvement, parce que nous sommes impérativement tenus par l'horaire. À 18h30, nous devons arrêter la réunion. Donc, je me vois obligé d'écourter le débat. Alors, il y a Juan Berendt, Dominique Voynet et notre ami de Greenpeace, Lam Moglen.
You touched till now the question.
Eh bien, vous venez d'aborder une question, la possibilité d'éviter, en tout cas, essayer d'arrêter les problèmes. La question que je voudrais poser, en fait, c'est à propos de la prolifération. Après ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, après ce que vous avez dit au sujet de l'Inde, et vous venez de mentionner l'Argentine, le Brésil, Israël, et en Asie du Sud-Est, c'est la même chose. Alors, moi, je m'interroge. Il y a le problème de la prolifération des armes chimiques et biologiques, mais je suis encore plus préoccupée qu'auparavant à propos de la prolifération des armes nucléaires. Je ne vois pas comment on peut arrêter cela. L'optique régionale me paraît une bonne idée, mais est-ce suffisant? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment voyez-vous les choses? C'est à moi que vous posez la question.
Les trois questions et vous répondrez.
I just want to clarify the question.
Mais je voudrais que l'on précise un petit peu. Vous parlez de la prolifération des armes biologiques et chimiques par rapport au nucléaire.
Si on peut sembler peut-être un peu en marge du débat, vous avez affirmé tout à l'heure que l'Irak avait suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer une arme atomique. J'aurais aimé savoir quels étaient les arguments sur lesquels vous étayez votre conviction, parce que jusqu'à aujourd'hui, cette affirmation me semble être du domaine des allégations qui visaient à légitimer la guerre dans le Golfe, et ça ne me paraît pas du tout prouvé. Alors, est-ce que vous avez des preuves ou des arguments un peu plus probants que celui que vous avez affirmé tout à l'heure?
Damon Moglen.
C'est pas vraiment une question, mais je voulais intervenir à propos de l'uranium enrichi, parce que j'ai des informations. Je ne sais pas si je dois en parler maintenant ou si simplement Paul doit répondre. Est-ce que je peux poser ma question, enfin faire mon observation? La voici. En fait, la question a été discuté. Le Parlement européen, d'ailleurs, vient de s'occuper d'uranium enrichi qui qui était expédiée, Paul l'a dit, il s'agit d'un problème particulièrement grave. Le gouvernement des États-Unis a dit que l'uranium très enrichi peut devenir une arme nucléaire en 7 à 10 jours. Et l'uranium enrichi venant de produits irradiés peut être transformé en 1 à 3 mois. Et la liste des pays se compose de 43 pays. Quand on parle de prolifération, eh bien, tous ces pays sont sur cette liste. Ils ont tous des quantités d'armes. tonnes d'uranium enrichi ont été fournies. Or, vous savez qu'il faut une très petite quantité pour faire une arme nucléaire. Or, il y a eu des exportations rien que des États-Unis pour des chiffres importants. Et 1400 kilos ont été renvoyés aux États-Unis. Il faut savoir aussi que 1400 kilos qui ont été renvoyés aux États-Unis sur ce chiffre et des États européens ont envoyé ces sommes. Eh bien, c'était expédié aux États-Unis. Donc, on parle de prolifération de matériaux. Là, on a bien vu un exemple de la façon dont ces matières sont utilisées depuis des années par les États-Unis, même si les États-Unis parlent de non-prolifération.
Merci. Monsieur Leventhal, je vous demande une réponse brève à toutes les questions. Ce n'est pas facile, mais nous sommes tenus.
I'll answer the question.
Je vais répondre à la question concernant l'Irak. Et puis ensuite, je parlerai de la prolifération.
I think what you have to do is separate the technical reality
séparer
from
la réalité technique
the political manipulation of that
des manipulations politiques de la réalité
faites
par le président des États-Unis pour obtenir l'appui concernant la guerre.
Nuclear weapons experts.
Maintenant, les experts nucléaires disent que le président Bush avait raison de dire qu'il y avait une menace nucléaire du côté irakien. Mais il a eu tort de dire qu'une guerre éliminerait cette menace. La guerre l'a montré d'ailleurs. Nous avons prévenu Saddam Hussein que nous allions lancer des bombes sur ses installations. Il se trouve qu'il a supprimé l'uranium de ses installations. Ici et là, dans différentes installations, il l'a déplacé les bombes à base d'uranium avant le début de la guerre. Alors finalement, qu'est-ce que la guerre a eu comme résultat sur le plan de la menace nucléaire? Eh bien, c'est tout simplement que le programme nucléaire a été arrêté. Et vu la situation très agitée en Irak, je crois qu'on peut supposer, c'est une supposition, que l'Irak a toujours assez d'uranium pour fabriquer une ou des armes nucléaires. Et qu'il a sans doute les composants lui permettant de mettre sur pied un tel dispositif ou de tels dispositifs. La capacité technique de l'Irak a été jugée très importante avant la guerre, trop importante sans doute, mais la capacité de fabriquer des armes, il n'y a pas qu'eux qui l'ont. Mais en tout cas, l'Irak certainement est à même de fabriquer des armes nucléaires. Maintenant, vous voulez savoir comment éviter la prolifération. Bonne question. Moi, je propose une optique intégrée. Et il y a trois éléments dans cette optique. D'abord, il faut aller rechercher les matières qui peuvent être utilisées. C'est ça qui est à la base de la politique contre la prolifération. Il faut empêcher ces matières d'être introduites. Et si elles ont déjà été introduites, il faut faire quelque chose de façon à ce que les programmes civils ne portent pas sur des matières nucléaires. Si de toute façon les matériaux sont illégaux, alors c'est plus facile ensuite d'empêcher les exportations. Et dans cette optique intégrée, il y a un deuxième élément. Il faut s'occuper des problèmes régionaux pour empêcher que les pays fabriquent des bombes. Je ne reviens pas à ce que j'ai déjà dit. Un troisième élément, les États qui ont des armes nucléaires doivent bien montrer leur sérieux, à savoir qu'ils veulent réduire, voire éliminer les armes nucléaires, car ce n'est qu'ainsi que l'on pourra convaincre les pays qui ont la capacité, mais pas le souhait, d'abandonner les possibilités de fabriquer. Donc, il y a trois éléments que je viens de citer, et avec ces trois éléments-là, on a une optique intégrée qui pourrait fonctionner. Parce que si on ne travaille que sur un des trois aspects, on n'obtiendra pas une politique de non-prolifération valable.
Merci, Monsieur Leventhal, à la fois pour les réponses elles-mêmes et pour la brièveté. Et je donne maintenant la parole à Damon Moglen, qui a une demi-heure devant lui. Vous avez une demi-heure pour votre exposé. Donc, je rappelle que vous êtes représentant de Greenpeace International. Je vous en prie.
Thank you. I'm Damon.
Greenpeace International. And I'd actually first like to thank the parliamentarians here for a very important vote that you made in October that limited and called for the cessation of nuclear transports. And I think this was a remarkably important vote, and one that Greenpeace certainly feels is an important step and an important kind of leadership that's been taken. And we hope that the parliament and many of the organizations around this table will be able to work further on the nuclear transport issue and follow up on the resolution. My position with Greenpeace is that I coordinate a project that Greenpeace now runs on nuclear transport issues. My colleague Bas Brauna from the Netherlands office of Greenpeace co-coordinates this campaign with me. And in fact, I am going to ask Bas to make part of the presentation that we'll be making today. The presentation that we'd like to provide you with is a presentation about the nuclear transports that are really involved in related to nuclear reprocessing. So therefore, transports as they relate to nuclear spent fuel, also in the future then, the transports of plutonium from Sellafield and La Hague, as well as the transports of high-level nuclear waste. As I think probably many of you are aware, Greenpeace's policy on these issues is perhaps not so subtle, but I hope correct, that in fact as an organization we would like to see reprocessing simply stopped. And the work that we do on the transport issue directly relates to the added and increased dangers the nuclear transports pose. But we do not mean to say that in and of itself the cessation of nuclear transports is what we're getting at. That's simply not good enough for us. The issue that we're very concerned about is that the transport of nuclear waste is basically the spreading of a poison. It's the spreading of a poison over 15,000 miles of sea routes. And as Paul Leventhal has suggested, it potentially is also the spreading of a poison into the skies by flying plutonium around the world in a totally crazy way. Therefore, the campaign that we run does very much take into account these issues relating to transport, but We would certainly appreciate the opportunity as well at some other time to talk about the reprocessing issue, which we obviously are quite concerned about. As I've said, the material that's transported as part of reprocessing is spent nuclear fuel. And as I think all of you probably are aware, spent nuclear fuel is, of course, transported by truck, by rail, and also by ship, particularly by ship in those cases where longer duration shipments are made, or in the case, for instance, here in Europe, of those transports which are conducted to the UK, to the Sellafield reprocessing plant, those transports are currently made on a roll-on, roll-off passenger ferry. What we are going to specifically talk about is the maritime transport of spent fuel at this point. As I say, those transports are conducted on anything from general dry good cargo vessels carrying bananas, shoes, newspapers, and nuclear waste, to roll-on, roll-off ferries. Most clearly, this issue is quite important here, where out of Dunkirk, a ship leaves three times a day and now carries 35 times a year, soon to be 50 times a year, spent fuel casks, one and two times each shipment, casks that may contain as much as half of the radiation released at Chernobyl. This is a roll-on, roll-off cargo passenger ferry. About the amounts of spent nuclear fuel that we're talking about, it's been estimated that between 1972 and 1985, some 1,000 to 2,000 tons of European spent fuel has been sent across the English Channel, or I should say across the English Channel as well as from sea route around Europe from Italy, that up until 1985, some 1,000 to 2,000 tons have been transported to Sellafield. From Japan, the contract is extremely large and will continue to be very large. Shipments of some 850 tons of Magnox fuel have been made to Sellafield. And it's believed that somewhere between 2,300 tons and 4,000 tons of light water reactor fuel is to be transported. Overall, it's estimated that some 22,300 tons of spent nuclear fuel will be available for import to Sellafield and La Hague in the next 2 to 3 decades. In particular, for instance, at these increased levels with the new contracts, we would be talking about an increase by the English Channel route of up to 450 to 600 tons a year. As Paul Leventhal has discussed, the shipments also clearly will involve, in the future, the transport of plutonium. I won't repeat what Paul has said about those transports. I think he's covered many of the issues. I will repeat again the remarkable figure that Paul pointed out, that up to 400,000 kilograms of plutonium are involved in the 30-year U.S.-Japan nuclear cooperation agreement. These overall figures of plutonium, of course, represent material that would be reprocessed in the U.K. and France and transported back to Japan. That's a sea route of some 15,000 miles. In terms of security issues, that is a shocking pipeline. And as Paul has also pointed out, the capacity to take advantage of these shipments at many areas along the route is extremely frightening. And obviously, shipments of this kind involving such massive distance also have tremendous potential for accidents, including plutonium, one of really the most deadly substances we know, I think. Finally, also, the shipments will include shipments of high-level nuclear waste. This is known as vitrified or glassified waste, which will be poured into a glass solution so that literally you will have high concentrations of glassified nuclear waste. The details of reprocessing contracts are, of course, highly secret, but what we do know, or what we seem to understand is that at least many of these contracts involve the return of waste from reprocessing. As probably many of you know, the reprocessing process, instead of simply producing positive things like plutonium, also produces 160 times as much radioactive waste as goes in the front end. So what we receive at the back end is this high-level waste as well as moderate, so-called medium and low-level wastes. And it is the high-level glassified waste that will be returned, presumably, to numerous, to the client countries. Because the waste is concentrated of the highest level isotopes, the most radioactive materials from the reprocessing plants, the material is extremely radioactive. So if we take, for instance, the ships that presently carry spent nuclear fuel from Japan to Europe, and we send those same ships back with cargoes of high-level glassified nuclear waste, we're talking about ships carrying some 7 to 15 times the radioactive content released at Chernobyl. These shipments from Sellafield alone, which are to begin in the 1995 period, will include 1,200 of these glass rods, these highly radioactive glass rods, to Japan, and will at least require the movement of 60 casks. Finally, I'd also just like to say a very quick comment as well about what is perhaps the most recent transport of nuclear spent fuel that's being discussed, which we've heard already from both presentations, the transport of highly enriched uranium spent fuel, which, as many of you know, the United States used to receive highly enriched uranium spent fuel from these client states around the world, and has discontinued that process as of January 1st, 1989, due to environmental concerns and pressures in the United States. In fact, the federal government was taken to court and forced by the U.S. federal court system to discontinue those shipments until it had done an extensive assessment of the environmental dangers. At this point, the Scottish reprocessing plant at Dounreay is now attempting to sign or negotiate contracts with some 50 clients around the world. Those transports, of course, would also be brought by sea to Britain. And it is interesting to note that the only shipment so far that Dounreay has been able to conduct, a shipment from India, which happened to have transited the Suez Canal during the very beginning of the Persian Gulf War, arrived in the UK. And after 6 days of having this material transported across England and Scotland, it arrived at Dounreay, where the operators at Dounreay were so pleased to finally receive a shipment that they decided to take some publicity photographs. And having washed down the cask so that the cask looked good, they realized that the water they just used was contaminated with radiation. They then began to monitor the cask and found that the cask was, in fact, contaminated. They then found that the truck was contaminated. They then found that, in fact, the material that had helped to lift the cask out of the ship was contaminated. At this point, they notified nobody of their little problem. They tried to keep quiet, and finally, some of the workers who'd been involved in the shipment went to the media and discussed the problem. But it is quite fascinating that when we talk about transports and we talk about the dangers implicit in those transports, it really is quite remarkable that a transport could enter a country like the UK with all of its experience, and it took 6 days for them to identify the fact that this cask had apparently leaked in the course of the transport from India to the UK. Basically, I hope that this provides a bit of an outline about these transports. And what I'd now like is to have my colleague, Bas Brauna, give you a short presentation as well from a report that Greenpeace has recently produced and will be releasing here in France, which was commissioned by a a former nuclear engineer, maritime engineer, John Large, and it's a report of some 400 pages or so about the dangers of nuclear transports. The report will, the summary of the report will be released here in France on Monday in Dunkirk.